chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles.
À Versailles, au château et aux rois qui ont fait la France. Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver. Naturellement, je suis toujours dans les studios de Radio Grand Ciel, les studios du Rocas, et je reçois une fois encore, mais j'espère qu'il reviendra très souvent, Mathieu Crézon, qui est conférencier au château de Versailles, mais pas qu'au château de Versailles. Bonjour Mathieu.
Bonjour,
et merci de venir et de Paris et de Versailles.
Mais c'est moi qui vous remercie, je suis très très heureux.
Jusqu'à Dreux.
Oui, tout à fait.
Alors, en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Alors, j'ai ma profession de conférencier que j'exerce depuis maintenant un peu plus de 10 ans et depuis un peu plus de 6 ans pour la Réunion des musées nationaux, donc la RMN. Et à côté de cela, donc, je fais un métier de journaliste et de chargé d'études à l'IREF.
Alors, vous savez que j'aime bien les vrais noms.
C'est un institut indépendant de recherche sur les sujets économiques et fiscaux.
Ah.
Voilà, qui est basé à Paris. Donc c'est ce qu'on appellerait en anglais un think tank. Alors préférons plutôt le français. Un laboratoire d'idées.
Oui.
Et donc j'y travaille depuis quelques mois maintenant.
Et il sort de bonnes idées de ce laboratoire ?
Alors oui, j'incite tous les auditeurs à regarder nos articles sur le site, donc le site de IREF Europe.
Voilà. Europe, d'accord.
C'est un laboratoire d'idées donc, qui est présidé par Jean-Philippe Delsol et qui est dirigé par Nicolas Lecossin. Donc, nous sommes une équipe de chargés d'études à produit régulièrement donc des articles courts qu'on appelle des pendules, parce que l'IREF cherche à remettre les pendules à l'heure. Donc on décortique l'actualité et on essaye d'apporter un regard neuf, libéral, sur l'actualité du moment.
C'est très intéressant.
Voilà, donc il y a les pendules qui sont des articles courts et puis il y a des articles plus longs. Il y a également des notes qui sont encore plus approfondies. Donc voilà, j'invite les auditeurs qui s'intéresseraient à ces sujets à consulter notre site.
Ce sont des pendules qui donnent la bonne heure.
Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, effectivement. De donner un autre son de cloche que ce qu'on entend souvent dans l'actualité, parce que quand même, une majorité de médias...
On tourne un peu en rond, finalement.
Oui, et disons que le point de vue libéral est assez peu exprimé en France. Il y a quelques instituts de recherche qui le font, dont l'IREF, et donc on essaie de porter cette voix-là dans le débat public.
Bravo.
Voilà.
Alors, on retourne à Versailles.
On retourne à Versailles, effectivement.
Et on va retrouver des rois que j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous, mais en réalité, Louis XV, Louis XVI, c'est passionnant. Alors, d'abord, leurs appartements,
oui,
qui sont d'ailleurs très différents, j'imagine.
Absolument.
Donc, et puis aussi, l'art de la table, enfin, l'art de vivre.
L'art de vivre à la française.
Avec les mets, les vins, voilà, puisque vous êtes aussi œnologue averti.
Alors, j'ai été pendant quelques temps... alors, œnologue averti, je ne sais pas, mais j'ai travaillé pendant quelques années dans le commerce du vin à Paris. Donc, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet. Et d'ailleurs, à Versailles, j'ai même fait des visites sur l'art de la table, également le vin à Versailles. On ne sait pas toujours, mais il y avait initialement des vignes qui avait été planté à côté du château de Versailles.
Ah, je ne savais pas.
Oui, c'est Louis XIV qui les a fait arracher, parce que en fait le décor végétal à l'époque à la mode n'était plus du tout des plants de vigne. Hein, c'était des jardins à l'italienne avec des parterres tracés au cordeau. Donc Louis XIV a voulu rivaliser avec cet aspect-là aussi, bien sûr, de la culture italienne. Et donc, c'est ce qui l'a conduit à demander à André Le Nôtre, hein, bien sûr, de tracer les jardins que l'on connaît aujourd'hui.
J'étais très déçue parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est exact, qu'en fait, on buvait du vin, mais coupé d'eau.
Alors oui, de Montaigne, dans les essais, remarquait que dans les pays germaniques, contrairement à ce qui se passait en France, on buvait les vins à l'état pur. voilà, donc effectivement, c'était une pratique répandue en France qui s'est maintenue assez longtemps. Mais c'est, d'ailleurs, cette pratique de couper les vins avec de l'eau, ça, alors ça pouvait être aussi toutes sortes d'autres adjuvants.
Ah oui ?
C'est une pratique qui est encore plus ancienne, qui remonte à la Grèce antique.
Ah tiens !
Voilà. Bah, quand, par exemple, quand vous lisez le banquet de Platon, le titre en grec, c'est Symposion. Donc, c'est, d'ailleurs, le titre en français, banquet, n'est pas une bonne traduction, parce que ce n'est pas un banquet, c'était une séance de boisson. C'est-à-dire qu'en fait, les convives...
Une dégustation de boisson.
Oui, où on bavardait, alors morale, métaphysique, on mangeait des fruits secs, on assistait à des danses également. Et on apportait en fait le vin dans d'immenses récipients qu'on appelait des cratères. Et on mélangeait dans le cratère donc le vin qui avait une consistance plutôt visqueuse ou pâteuse.
Un peu épaisse. Hein.
Voilà. Et on y ajoutait toutes sortes de substances. Alors, ça pouvait être de l'eau, même de l'eau de mer, figurez-vous. Je ne sais pas quel goût ça devait avoir.
Bien sûr.
Ou des épices, des aromates. Et apparemment, la première grande figure de l'amateur moderne de vin, ce serait le poète latin du 1er siècle, Horace, qui avait coutume, en fait, quand il recevait un ami qui lui était cher, de servir un cru de son choix.
Ça a perduré. C'est quand même ce que nous faisons actuellement, quoi.
Oui. Et là,
jusqu'à temps que le vin nous soit interdit, naturellement, chers auditeurs, à déguster avec modération, et etc.
Mais c'est vrai que le fait d'associer le vin à l'amitié est quelque chose qui vient plutôt de l'époque romaine. C'était pas tellement quelque chose qui était pratiqué dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, la consommation du vin était collective. Alors qu'on va dire qu'elle entre dans la sphère de l'intimité, de l'amitié, avec ce personnage d'Horace. Alors celui qui l'explique très bien, il y a beaucoup de livres très intéressants sur ces sujets, mais là je renverrai les auditeurs à un livre qui a paru à la fin des années 70, écrit par Jean-François Revel, Un festin en parole. C'est extrêmement intéressant parce que, en fait, Revel avait... fait ce livre pendant ses vacances.
Quel homme merveilleux.
Ouais, c'était un puits
de science, comme je les aime.
Un esprit encyclopédique. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'a pas consulté d'archives pour rédiger le contenu de cet ouvrage. Il a été regardé comment, dans la littérature, depuis l'Antiquité, comment les auteurs parlaient des mets et des vins pour essayer de recréer la saveur que ces plats devaient avoir.
Parce que de toute façon, il n'y a pas que la saveur, il y a aussi l'ambiance dans laquelle on consomme tous ces mets et ces vins.
Oui.
Et je donnerai à Roland Richard, qui enregistre cette émission aujourd'hui, comme toutes les autres Bienvenues chez le Roi, un CD que j'aime beaucoup, qui est intitulé Soleil, et dedans il y a Chantons Bacchus.
Oui.
Alors, ça va illustrer notre émission, ça va être tout à fait fantastique. C'est très joyeux, parce que quand même, il y avait Bacchus et les Bacchanales.
Oui.
On s'ennuyait pas à Rome, hein ?
Non, c'est certain. Et je ne sais pas pourquoi, comme je travaille au Musée d'Orsay aussi, comme conférencier, je passe souvent cet immense tableau de Thomas Couture, qui représente le titre de l'œuvre, c'est les Romains de la décadence. Et donc, en fait, on voit la gueule de bois, hein, si j'ose dire, du lendemain.
Ah, c'est moins gai, voilà, certainement. Mon bus vient
là toujours, sans plus attendre et vivre.
Chantons battu, chantons battu, chantons d'amour et joie. Que pour la cour dans ce jour, c'est que j'en dis ce
Pour en revenir à Versailles, alors on sait que les rois appréciaient le vin, hein, bien sûr, à cette époque-là.
Et le champagne.
Et le champagne, beaucoup. Alors, celui des trois rois qui ont vécu à Versailles, qui appréciait le plus le champagne mousseux, hein, je précise, parce que pendant très longtemps, le champagne a été un vin tranquille, c'était Louis XV.
Madame de Pompadour,
effectivement.
Elle avait une phrase extraordinaire. Elle disait que le champagne était le seul vin qui laissait belles les femmes après l'avoir bu.
Oui.
C'est superbe, ça.
Absolument. Et en fait, le champagne mousseux avait déjà été beaucoup apprécié par le régent à Paris. Hein.
Ça a frisé les bacchanales.
Oui, hein.
C'était très animé.
Et... très souvent, on pense que l'inventeur du champagne mousseux est un Français, le fameux moine Célérier de l'abbaye de Hautvillers, hein, donc
Dom Pérignon. Hautvilleur.
Alors, je ne sais pas comment, peut-être que je
prononce dans ma prononciation. Non, c'est vous qui avez raison, Mathieu.
Mais alors, pure coïncidence, il a exactement les mêmes dates de naissance et de décès que Louis XIV, donc 1638-1715. On raconte qu'à la fin de sa vie, il était devenu aveugle et qu'il était capable de goûter des grains de raisin et de reconnaître exactement la parcelle d'où il provenait. Alors, ce qui est certain,
c'est... les meilleurs sommeliers du monde.
Oui, qui sont capables, effectivement, d'humer les senteurs d'un vin, de le goûter, de reconnaître son terroir ou son millésime. Il semblerait, d'après ce que... la recherche en histoire du vin est démontrée dernièrement, il semblerait que ce soit largement une légende. Alors, celui qui l'avait déjà dit, c'était peut-être celui qui reste le plus grand historien du vin, aujourd'hui Roger Dion, qui a fait paraître, alors de mémoire, c'était en 1959, son histoire de la vigne et du vin, des origines au XIXe siècle. Il s'est arrêté, en fait, à l'aube du phylloxéra. Donc, c'est cette crise qui a dévasté des pans entiers du vignoble français. Durant le dernier tiers du 19e siècle.
Et je me trompe peut-être, mais est-ce que justement à cause de ce phylloxéra, on a dû réimporter des plants d'Amérique latine?
Alors, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la grande majorité des vignes françaises qui sont plantées encore aujourd'hui sont greffées sur des porte-greffes américains qui, eux, sont résistants au phylloxéra. C'est-à-dire qu'en fait, le phylloxéra est toujours là, je dirais, à l'état latent. Et c'est la seule solution qu'on ait trouvée qui ait permis de maintenir une production de vin et également de conserver la qualité des vins, puisque dans un premier temps, on avait planté des cépages hybrides, donc ultra productifs, mais qui n'étaient pas du tout qualitatifs.
C'est un petit peu la même chose que d'autres produits.
Oui, finalement.
Quand on a la quantité, on n'a pas forcément la qualité qui va avec. Hein,
voilà, ça, voilà. Et je crois que c'était de mémoire en 2015. Plusieurs vignobles champenois ont été classés patrimoine mondial à l'UNESCO.
C'est bien le mois.
Voilà, et dont le. Alors, je crois qu'actuellement, c'est un centre de recherche, une célèbre maison de champagne, et c'est là où on a mis au point cette technique du greffage, donc des cépages français sur des porte-greffes américains.
Donc, pas seulement pour le Bordelais ou la Bourgogne.
Oui, parce que même en Californie, par exemple, en Californie, le phylloxéra est un problème, puisque les cépages qui sont plantés là-bas, ce sont des cépages dits internationaux qui ont fait la gloire des vins français. Il y a quelques pays, par exemple, le Chili ou en Argentine, où là, le phylloxéra n'est pas un problème.
Et comment ils le résolvent?
Bah, ils ont un climat, un terroir.
Il y a peut-être ça aussi, bien sûr.
Particulier.
Et il y avait des. Je ne sais pas s'il y avait quelques parcelles qui avaient échappé à ce phylloxéra.
Ah oui. Absolument. Alors, on en trouve par exemple dans le sud-ouest. Mm-hmm. On en trouve, il y en a quelques-unes dans le pays nantais.
Genre Saumur ou des trucs comme ça.
Muscadet, Sèvres-et-Maine-sur-Lys.
Oui.
Et puis il y a, alors on peut peut-être pas trop la citer, je ne sais pas, une fameuse maison de champagne.
Si, si, bien sûr, Mathieu, vous pouvez citer, on va en citer plusieurs. D'accord. Donc voilà.
C'est la maison Bollinger.
Oui.
Qui a une cuvée, les vieilles vignes françaises, VVF.
Le champagne de James Bond.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ce sont quelques parcelles de, alors je crois que c'est du vieux pinot noir, mm-hmm, pré-phylloxérique.
Ah.
Voilà. Alors c'est vieilli sur lit pendant très longtemps, pendant des années.
Ça veut dire quoi, ça?
Alors le vieillissement sur lit, si vous voulez, c'est aussi une technique que l'on pratique dans le pays nantais, pour le muscadet par exemple. Il y a aussi des vins, je crois, comme des pic-poules de Pinet, par exemple, dans le Languedoc, où les vins sont vieillis sur lit. Les lits, c'est tout simplement des cellules de levure mortes. Mmh. Et donc, en fait, quand le
qui vin se trouve dans les tonneaux, dans le fond des tonneaux.
Alors, pour le champagne, c'est ce qu'on appelle le vieillissement sur latte, c'est-à-dire, oui, que le vin repose au contact de ces lits en bouteille.
D'accord.
Voilà.
Et c'est ce qu'il faut sauter quand ils font des dégorgements.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, dégorgement, d'accord, c'est l'une des dernières étapes de la production du vin de champagne.
Il faut d'ailleurs une dextérité extraordinaire parce que.
Oui. Effectivement, on expulse le dépôt, mm-hmm, de la bouteille. Et comme il y a un déficit de volume qui s'est formé naturellement, on va le remplir par ce qu'on appelle de la liqueur de dosage, pour les champagnes brutes, hein, notamment. Et d'ailleurs, c'est une la technique du remuage est une technique qui aurait été mise au point par le chef de cave de la fameuse veuve Clicquot.
Ah, encore une, voilà, autre marque extraordinaire.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait,
elle a beaucoup d'admirateurs, cette veuve.
Oui,
d'ailleurs.
Et puis elle a développé considérablement le marché à l'export, notamment donc, auprès des pays d'Europe de l'Est. Et c'est son chef de cave, apparemment, qui a mis au point cette technique qui consiste à imprimer.
Un quart de tour.
Un quart de tour, exactement.
À la main.
Et oui, alors maintenant, ça se fait souvent dans les grandes maisons de champagne avec des gyropalettes qui peuvent gérer plusieurs milliers de bouteilles à la fois. Mais,
mm-hmm. Un peu comme les Rubik's Cube, on les tourne.
c'est un peu ça. Mais la technique ancestrale, effectivement, se fait avec un pupitre. Et donc, l'idée, c'est de déplacer progressivement la bouteille de manière que le goulot pointe en direction du sol afin de faire migrer le dépôt pour l'expulser plus facilement.
Pour le dégorgement. Bien sûr, pour faciliter ça.
D'ailleurs, pour les auditeurs, hein, une donnée très importante, je pense, pour le vin de champagne, c'est la date de dégorgement qui n'apparaît pas toujours sur les contre-étiquettes, ce qui est bien dommage. Mais de plus en plus de petits producteurs la font apparaître. Et quand les millésimes sont indiqués, ça permet de savoir combien de temps le vin a reposé au contact de ses lits.
Réellement.
Voilà. Et plus un champagne reste longtemps sur ses lits, plus il s'enrichit, plus il se complexifie, et plus il est également apte au vieillissement.
C'est très important.
Voilà. Oui, c'est une donnée essentielle.
J'ai beaucoup étudié la question, mais en fait, j'ai été étonnée de voir toutes les maisons qui perduraient de nos jours, alors qu'elles étaient déjà très célèbres sous Louis XIV, sous Louis XV, et les vins aussi, les Bordeaux aussi. Mais en fait, le champagne sous Louis XV, c'était la boisson des rois, quoi.
Effectivement, c'était la boisson la plus à la mode. Et il a fait énormément pour diffuser le goût du vin de champagne à la cour de Versailles. Mais il semblerait, et là encore c'est Roger Dion, notamment l'historien du vin, qui le dit.
C'est votre Bible.
Alors oui, mais il y a de plus en plus d'historiens qui ont approfondi ces recherches. Il semblerait, et là ce que je vais dire va peut-être froisser quelque peu notre égo national, mais il semblerait que ce soit en vérité les Anglais qui aient mis au point cette technique de la champagnisation.
Tiens,
oui.
C'est pas possible.
Si, alors,
Dom Pérignon dans son couvent, là.
Alors, Dom Pérignon.
Et puis, avant Dom Pérignon, il y avait un autre endroit où on faisait ça. C'était la Blanquette de Limoux.
Oui, absolument. D'ailleurs,
il a piqué l'idée, quoi.
C'est possible. Il faudrait que je creuse ce point. Effectivement, ailleurs en France, hein, vous avez des vins qui sont issus de la même méthode. Hein. Donc, par exemple, les vins de l'appellation de Limoux. Alors, il y a la blanquette de Limoux et puis les méthodes traditionnelles de l'appellation de Limoux. Et puis, il y a aussi beaucoup de créments hein, qu'on peut trouver en France, oui, dans le Val-de-Loire, en Bourgogne.
Et en Alsace.
En Alsace. Très bon crément d'Alsace aussi.
Et je me suis penchée aussi sur la famille d'Albizzi, qui est venu de Florence, chassé par des complots politiques, oui, et qui voulait s'échapper vers, je pense, les États-Unis, enfin l'Amérique. Et oui, l'Amérique, parce que c'était bien avant. Et puis, ils ont été pris dans une tempête absolument épouvantable au large de Cassis. Et ce sont des pêcheurs de Cassis qui les ont sauvés, qui les ont ramenés sur la plage d'abord, ah oui, et qui les ont installés. Et les Albizzi sont toujours à Cassis.
D'accord.
Plusieurs générations, ça doit faire de 300, peut-être oui, 300 ans, en tout cas 250, c'est sûr. Oui. Et je leur ai parlé, je leur ai téléphoné, et pour avoir des tas de renseignements sur leur famille et tout. Et c'est extraordinaire parce qu'eux aussi avaient ce vin tranquille, oui, qu'ils ont ensuite fait. Ils ont préféré aussi faire quelques-uns avec l'effervescence qui est tellement appréciée d'abord à cette époque-là.
Oui, en fait, c'était au départ apparemment une curiosité. Et même les Français voyaient ça plutôt comme un défaut qu'il fallait corriger. Mais les Anglais s'étaient aperçus que quand le vin était expédié, il devenait mousseux, effervescent. Et ils étaient à l'époque beaucoup plus avancés que les Français dans plusieurs domaines, notamment la production de bouteilles en verre,
oui,
beaucoup plus robustes.
Voilà,
il faut pouvoir supporter la pression exercée par le champagne. Et puis, également, les Anglais, du fait de leur proximité avec le Portugal, ils ont pu observer sur place les propriétés du liège. Le liège, bien sûr, étant un composant essentiel du champagne, parce qu'il est à la fois élastique et hermétique.
Et de mon point de vue aussi, pour le vin.
Alors, pour le vin, ça, c'est discuté. Moi, je ne sais pas. Hein. J'écoute les uns et les autres. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles. C'est-à-dire, pour certains, le vin mûrit en cave grâce à l'oxygène ambiant. Donc, le bouchon de liège, du fait de son infime porosité, laisse passer en quantité infime l'air. D'autres vignerons considèrent au contraire que le vin mûrit grâce à son propre oxygène. Et donc, de ce point de vue, il faudrait obturer la bouteille d'une manière parfaitement hermétique. Il y a même des vignerons qui travaillent très bien, qui utilisent des, j'ai vu ça hein, plusieurs fois, des capsules comme pour la bière. Alors, c'est vrai que ça peut paraître curieux de déboucher une bouteille de vin comme on déboucherait une bouteille.
J'en ai vu comme ça en Californie, voilà. Il y a des maisons qui le font effectivement.
Voilà.
Oui.
Bon, je ne suis pas expert en la matière, donc je ne pourrais pas trancher la question.
Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque en tant qu'œnologue, vous avez forcément votre opinion là-dessus. Je suis très, très contrariée quand je vois des vins qui sont décantés et mis en carafe.
Oui.
Ça me frustre. Moi, j'ai besoin d'avoir le vin dans la bouteille, de voir l'étiquette.
Oui, oui. Alors, d'ailleurs, vous savez pourquoi il existe en France essentiellement deux grands types de bouteilles. La bouteille bordelaise, à épaulement plus carré, et la bouteille bourguignonne champenoise. Apparemment, c'est parce qu'au XVIIe siècle, le principal marché à l'export pour les vins de Bordeaux, c'était le marché anglais. Et les Anglais ne voulaient pas avoir de dépôt dans leurs verres. Et donc, ils ont fait coller les vins, filtrer les vins. Néanmoins, il y avait encore du dépôt qui subsistait, et donc ils ont demandé à ce qu'une nouvelle forme de bouteille soit conçue à épaulement, donc voilà, plus carré, de manière à mieux retenir le dépôt dans la bouteille.
Et il y a quand même dans ces bouteilles un peu de dépôt. Quand
oui,
les vins sont très vieux.
Voilà, oui. Et même pour les vins jeunes, c'est plutôt le signe d'un vin vivant. Alors.
C'est ce qu'on appelle le tannin ou pas ?
Ce sont des.
Des dépôts de.
Oui, c'est quelque chose de parfaitement naturel hein, dans le vin. Et pendant longtemps, le consommateur au restaurant, par exemple, quand il voyait un dépôt au fond de la bouteille, considérait que c'était un défaut. Et maintenant, je pense que le consommateur est mieux informé, il est plus averti que par le passé. Donc, il sait que c'est le signe d'un vin vivant, d'un vin en bonne santé. Alors là, il faut peut-être quand même insister sur l'action qu'a menée. Alors, il n'est pas tellement aimé en France, et pourtant, il a fait beaucoup pour les vins français. C'est Robert Parker.
Ah là là, le fameux guide.
Voilà.
Le fameux guide.
Voilà.
Dans lequel j'avais lu que le château d'Yquem 1990, dans 100 ans, oui, serait toujours le meilleur vin du monde.
Mais c'est possible, ce sont des vins qui ont une longévité incroyable. Alors, il est souvent accusé d'avoir promu son goût, le goût pour les vins puissants, charpentés. Oui, je pense qu'il a été victime de son succès. C'est une histoire incroyable, Robert Parker. Il était avocat au départ. Hein, et en fait, il courtisait une de ses compatriotes qui était francophile. Et elle lui a dit, Robert, si tu veux me faire la cour, il va falloir t'intéresser à la culture française. Et il va falloir apprécier les vins français. À l'époque,
il n'a pas choisi la moins bonne part. Hein.
Il racontait qu'il buvait du Coca-Cola à l'époque. Hein. Il est quand même devenu le critique de vin le plus influent au monde. Et donc, il a voyagé en France. Il a découvert cette passion. Il a fondé un journal quand il est revenu aux États-Unis, alors qu'il terminait ses études de droit. Et il est devenu professionnel de critique de vin à temps plein. Je crois que c'était en 1978. Et il s'est fait surtout connaître en 1982.
Avec son guide.
Avec le guide. En 82, en fait, à l'époque, apparemment, beaucoup de gens pensaient que le millésime 82 serait très moyen à Bordeaux. Et il a été l'une des seules voix à dire que ça serait un des plus grands millésimes du XXe siècle. Et aujourd'hui, tout le monde lui donne raison.
Et pour en avoir goûté, je suis d'accord avec lui.
Voilà. Et il a été quand même décoré, alors une première fois sous François Mitterrand. Et je crois que c'était en 1995, sous Jacques Chirac, il a reçu la Légion d'honneur, parce que c'était un des plus grands ambassadeurs des vins français dans le monde.
C'est merveilleux, bien sûr.
Oui, c'est une histoire extraordinaire. Et c'est un critique, on peut lui faire des reproches, de ne pas avoir dégusté parfois certains vins. Bon, il le reconnaît d'ailleurs lui-même, hein, mais il est très compétent, extrêmement indépendant. Et... Il a une reconnaissance de la part des amateurs de vin qui se fient à son jugement. Alors, c'est jamais très bon quand tout le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul personnage. Son succès devrait plutôt inciter, et c'est ce qui s'est passé hein, depuis sa retraite, devrait inciter d'autres critiques de vin à s'inspirer de ce qui a fait son succès.
Ça vous tente, vous, Mathieu ?
Alors, non, moi, j'aurais pas la compétence pour pouvoir déguster les vins. Imaginez quand même que ces critiques goûtent jusqu'à, je sais pas, 100, 150 vins parfois par jour.
Et ah oui.
Il faut.
Pour moi, le drame serait de les recracher, parce que finalement. Quel dommage.
Oui, mais ils sont bien sûr, ils sont obligés de le faire, mais il faut rester, vous voyez, concentré, parce que la moindre note que vous attribuez à un vin joue bien sûr sur
ça a des conséquences énormes.
Bien sûr, voilà. Donc sur le plan éthique, c'est très sûr. Exigeant. Mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de grands promoteurs du vin français qui sont aux États-Unis. Je citerai par exemple quelqu'un qui a une boutique de vin à Berkeley en Californie, Kermit Lynch. Qui est, je crois, le premier qui a utilisé des contenants réfrigérés pour importer des vins aux États-Unis, notamment des vins de Bourgogne qui étaient fragiles. Et ça ne se faisait pas tellement à l'époque où il a commencé à le faire. Je crois que c'est le premier qui a dû...
Et puis, il y a des grandes maisons de vin aussi qui ont des vignobles en Californie.
Bien sûr, il y a des Français aussi qui...
Les Rothschild en particulier, Philippine de Rothschild avait là-bas un beau domaine qui de toute façon perdure, c'est sûr.
Philippe de Rothschild, d'ailleurs, vous connaissez peut-être sa devise. Hein, je ne sais plus, dans les années 70, je ne veux pas me tromper sur la date. Mais vous savez, le fameux classement de 1855 n'a été retouché qu'une fois.
Je ne savais pas.
Et c'est l'année où le château Mouton Rothschild, qui avait été jusqu'alors un deuxième cru classé, a été élevé au grade de premier cru classé. La devise du baron Philippe, c'était « Second je fus, premier je suis, mouton ne change
». Ce que c'est beau. Écoutez, ça nous offre une conclusion merveilleuse pour cette émission sur Versailles et sur les vins. Nous retrouverons les appartements des rois dans une deuxième émission, Mathieu. Et bien sûr, il y en aura d'autres. Merci d'être venu dans nos studios.
Merci encore à vous, Marie-France.
Et à bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le roi. Au revoir.
M'accompagne et jamais ne m'a trahi.